It's interesting, almost everything occurs again.
C'est Symbiose. Donc aujourd'hui, on va parler de différents sujets. On reçoit donc Cyprien Gay et Fred Couchet pour ça. Donc on va parler aujourd'hui. Alors déjà, on va commencer par faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe dans le libre. Et c'est David qui va s'en charger. Donc David me rejoint dans l'émission. Donc on va l'animer à deux maintenant. Et donc voilà, donc il va parler un petit peu de ce qu'il y a de nouveau dans le monde du libre. Et voilà. Et ensuite, on parlera donc, on a trois sujets qui nous intéressent, certains plus importants que d'autres. On a les affaires autour de Free, donc le provider internet qui est menacé d'un procès pour non-respect de la licence GPL. On va parler également des questions de la vente liée. La vente liée, qu'est-ce que c'est? C'est vous achetez un ordinateur ou un équipement et on vous vend de force le logiciel qui va avec, enfin ou qui va avec, mais vous pourriez vouloir en mettre un autre ou réutiliser l'ancien que vous avez, mais on vous le vend quand même. Et on va parler également de la commission Oliven, donc qui est le président de la FNAC et qui s'est chargé de présider une commission sur les questions de copie de fichiers, ce genre de choses. Et donc on va voir un petit peu quel est le contenu et ce que ça peut signifier pour les gens au quotidien. Donc David, est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de ce qui se passe?
Alors tout d'abord, on va commencer par donner quelques informations sur des sorties de distribution dans le domaine du libre. Donc FreeBSD 6.3 en release candidate 1 est disponible. Donc pour information, quand une distribution en release candidate, ça veut dire que les utilisateurs un peu moins avertis que certains peuvent commencer à l'utiliser, même s'il y a toujours quelques bugs évidemment à corriger. Donc une autre release candidate aussi dans le monde BSD, du côté de TrueBSD 2.0, et OpenBSD qui vient de sortir sa version 4.2. Sinon, dans le monde Linux, à noter qu'un distributeur de matériel aux États-Unis vient de sortir une nouvelle distribution qui s'appelle GOS, qui est fournie en standard sur son matériel. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là, dans la mesure où ça fait un nouveau fabricant de matériel qui commence à distribuer du Linux en standard sur son matériel. Donc côté des distributions aussi, il y a Fedora 8 donc, qui vient de sortir. Donc pour information, la Fedora, c'est le pendant gratuit, on va dire, de la version Red Hat à l'origine. Sinon, d'un point de vue côté KDE, donc côté environnement graphique, la version 4 de KDE est disponible aussi en release candidate, donc pour tester. Sinon, on va continuer aussi avec la part d'utilisation de Firefox, donc qui continue de progresser sur Internet. Donc Firefox, hein, qui est un navigateur entièrement libre et donc qui progresse. On a des chiffres côté w3schools.com qui annonce Firefox à 36% de part de marché à l'heure actuelle.
De marché mondial. Hein.
Part de marché mondial, oui, en octobre 2007. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ce qui le met, on va dire, si on sépare toutes les versions du concurrent qui est Internet Explorer, qui le met même devant Internet Explorer 6, qui lui n'est utilisé qu'à 35%. Voilà. Donc on va passer à la branche culturelle côté
oui.
Côté domaine du libre. Donc à noter donc la sortie du livre de Didier Roche, Simple comme Ubuntu, qui donc s'associe à la version 7.10 sortie fin octobre.
Donc pour mémoire, Ubuntu est une distribution Linux qui est réputée pour être une des plus abordables pour les gens qui ne sont pas des informaticiens compétents, voire pas informaticiens du tout.
Tout à fait. Hein. Donc le livre s'adresse justement à ce public-là et très bien fait, très didactique, dans la mesure où n'importe qui peut très facilement prendre sa distribution en main avec ce livre et j'irais progresser dans la maîtrise du système. À noter que ce livre est sous une licence Creative Commons, donc disponible gratuitement en téléchargement. Et c'est aux éditions In Libro Veritas. Côté sortie de livres, on a aussi la troisième.
Ce qui veut dire donc In Libro Veritas, donc on peut le télécharger gratuitement, mais on peut également acheter un bouquin imprimé, relié et tout à fait fonctionnel.
Tout à fait. Voilà. Nous avons aussi aux éditions Erol la sortie de la troisième édition des cahiers de l'admin Debian. Ça s'adresse en général aux utilisateurs un peu plus avertis.
Ça fait pas très poétique.
Oui, non, effectivement, il est vrai que cahier de l'admin, ça fait un petit peu scolaire. Néanmoins, je dirais ça, c'est vraiment une mine d'informations pour tous ceux qui veulent vraiment s'approprier leur système. Toujours côté culturel, il faut savoir que le Mutopia Project, donc qui est un site sur Internet qui met à disposition des partitions qui sont rentrés dans le domaine public, donc ce qui signifie que le compositeur est mort depuis plus de 75 ans.
Mmh. Parce que sur les partitions, habituellement, la personne qui a édité ou mis en forme la partition a des droits d'auteur sur son travail.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est interdit de photocopier une partition de Jean-Sébastien Bach, même si, évidemment, il n'y a plus d'ayant droit d'un point de vue du compositeur. Par contre, celui qui met en forme et qui imprime, lui, garde ses droits et donc interdit la reproduction. Donc, le projet Mutopia, lui, est constitué d'un ensemble de bénévoles qui, justement, retranscrivent à nouveau ces partitions et les mettent sous une licence Creative Commons, donc qui, là, cette fois, autorise la duplication, la photocopie.
D'accord.
Et donc, c'est vraiment à surveiller chaque mois. À titre d'exemple, ce mois-ci est sorti, par exemple, le troisième mouvement du concerto pour violon de Beethoven. On peut noter aussi qu'il y a toujours des nouvelles partitions pour Bach et d'autres compositeurs donc, qui sont publiés. Même chose côté ouvrage avec le projet Gutenberg.org, qui lui aussi est un projet qui consiste à retranscrire à nouveau donc, des ouvrages qui sont tombés dans le domaine public, pour autoriser à nouveau chacun à l'imprimer, le dupliquer, etc. Et donc, par exemple, ce mois-ci, on a le tome 2 des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand qui vient d'être retranscrit donc en français. Il faut savoir que c'est un projet où il y a énormément de livres en anglais, mais il y en a aussi beaucoup dans plusieurs langues, dont le français. Mmh. On va passer à l'agenda ?
Oui.
Donc, tout à l'heure, on parlait justement de la sortie de la distribution Fedora 8. Il faut savoir qu'il y a une install party qui est organisée le 8 décembre à la Cité des Sciences. Donc, le principe de l'install party, pour rappeler, c'est vous venez avec votre ordinateur et on va vous aider à installer donc cette distribution sur votre matériel. Il y a toujours des gens très compétents pour vous aider, répondre à toutes vos questions.
Fedora étant également une distribution assez très accessible pour les gens qui ne sont pas informaticiens.
Tout à fait. Donc voilà, c'est organisé par l'association Parinux le 8 décembre à la Cité des Sciences. Autre information qui va concerner plus les professionnels, par exemple, du monde médical. Il faut savoir que Parinux, encore cette association donc sur qui défend le logiciel libre sur Paris, va faire une conférence qui sera le jeudi 13 décembre de 19h15 à 20h45 sur le logiciel MedinTux. Ça sera animé donc par Gérard Delafont, qui est médecin généraliste et utilisateur de MedinTux. MedinTux est un logiciel libre de gestion d'un cabinet médical.
Et donc j'avais rencontré Gérard Delafont à l'occasion. On a fait une interview, mais malheureusement, on a eu des problèmes techniques. Elle s'est perdue. Mais donc voilà, c'est un logiciel assez complet et il se bat. Enfin, il est face à des logiciels propriétaires qui sont en général publiés par des labos pharmaceutiques. Et on sait que dans le domaine médical, voilà, ils pèsent assez lourd. Et donc, ils sont toute une équipe. Hein, il n'est pas tout seul à faire ça.
Et, non, je voulais intervenir.
Wade.
Je voulais intervenir juste pour dire que l'interview, elle n'est pas vraiment perdue. Donc, on va essayer.
D'accord.
Personnellement, on va vraiment la retrouver. Donc,
voilà. Donc, on arrivera sans doute à déterrer l'interview concernant ce logiciel. Mais bon, pour en dire deux mots, c'est donc voilà, enfin il a réussi à le placer dans un certain nombre d'endroits, etc. Mais donc c'est difficile parce qu'il a pas, enfin il est face à des labos pharmaceutiques qui ont pas mal de moyens. La sécurité sociale trouve pas ça passionnant non plus, et donc dans le milieu hospitalier, c'est pas évident non plus. Mais en tout cas, son truc semble bien tourner, et voilà. Donc s'il y a des médecins qui nous écoutent, ça pourrait éventuellement les intéresser.
Donc, on va finir avec des informations générales qui vont nous permettre d'introduire donc les débats qui vont suivre, notamment quelques affaires qui concernent des constructeurs ou, on va dire, des grandes entreprises qui utilisent la GPL et qui ne reversent pas forcément les sources qu'ils ont modifiées, c'est-à-dire qu'ils vont faire des modifications sur les logiciels. Or, il faut savoir que la licence GPL, justement, oblige celui qui fait ses modifications et qui a redistribué ses modifications. Donc il y a une affaire entre Asus et vis-à-vis d'un ordinateur donc qu'ils vont mettre en vente. Ils ont été accusés donc de violer la GPL, dans le sens où ils avaient fait des modifications et ils n'avaient pas redistribué ses sources. Donc il faut savoir que c'est très important, parce que à partir du moment où un constructeur fait des modifications et ne redistribue pas les sources, ça veut dire que finalement on est à nouveau lié avec le logiciel qu'ils ont installé sur cette machine et qu'on ne peut pas en installer un autre.
Oui, du coup ils profitent du travail d'autrui.
En plus. Donc a priori Asus a répondu à ces accusations et vient de mettre en ligne ses sources. Donc a priori l'affaire pourrait être réglée, évidemment c'est à surveiller et vérifier que l'ensemble des sources ont bien été reversées. De plus, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient fournir un kit de développement pour permettre à chacun de développer sur leur plateforme. Donc, je ne sais pas si nos invités veulent commenter éventuellement.
Donc, Frédéric Couchier, déjà, je me présente. Je suis le délégué général de l'April, association de promotion et de défense du logiciel libre. Concernant effectivement l'affaire Asus, j'ai l'impression que ça se règle comme 99% des affaires de ce genre, c'est-à-dire par un respect de la GPL, qui à mon avis était plus lié à une méconnaissance des obligations de la GPL qu'à autre chose. Il faut bien comprendre que la plupart des gens n'ont pas forcément conscience de ce qu'impose effectivement la GPL, qui est tout simple, effectivement. C'est que les auteurs qui décident d'utiliser la GPL comme licence pour leur logiciel libre disent simplement, on partage avec vous, simplement on met une petite condition, c'est que vous faites de même, vous partagez avec les autres. Donc si vous diffusez notre code, si vous le modifiez, si vous le mettiez dans un boîtier, vous devez redistribuer le code source et vos modifications. C'est donc toute simple comme demande. Et souvent, les cas de violation de GPL, entre guillemets, sont des cas souvent de méconnaissance du sujet. Donc je pense qu'effectivement, ça va se régler rapidement. Et il y a très peu de cas où, en fait, il y a une vraie volonté de ne pas respecter la GPL. Et là, ça prend toujours un peu plus de temps de faire comprendre à ces gens-là que ne pas respecter la GPL, c'est de la contrefaçon. C'est ne pas respecter le droit des auteurs de logiciels libres. Et que ça peut se régler, effectivement, devant un tribunal au final. Donc je pense que dans le cas d'effectivement Asus, on est sur la bonne voie et que tout va rentrer dans l'ordre très rapidement.
Cyprien, tu as peut-être...
Voilà, donc en fait, c'est un autre cas de... Disons que les gens, c'est effectivement de la méconnaissance pour l'essentiel, c'est-à-dire que le grand public, souvent, pense que offrir quelque chose qu'on a fait, une création artistique ou un logiciel ou une œuvre littéraire, c'est la mettre dans le domaine public. Eh bien non, mettre dans le domaine public, c'est dangereux parce que quelqu'un peut le modifier, le redistribuer sous son nom, sous une autre licence. Là, justement, les licences libres en général, et la GPL en particulier, impose cette clause qui est de propagation de la licence, qui permet justement de garantir que, à la suite, également, l'œuvre sera disponible. Et sans cette clause, ce ne serait pas forcément le cas.
D'accord. L'idée étant qu'un intermédiaire ne peut pas retirer la liberté que l'auteur original a voulu donner à ses utilisateurs. C'est l'idée de la GPL, de ce qu'on appelle le copyleft, mais il y a des licences logicielles libres qui n'ont pas cette obligation-là, qui sont des licences de type non copyleft. Simplement aujourd'hui, à peu près 70% des projets dans le monde sont couverts par la licence GPL.
D'accord. Bah, ça nous amène vers le cas de Free, qui est moins évident. Donc David, tu peux peut-être revenir sur, enfin présenter un peu de quoi il s'agit.
Oui, donc récemment, il y a plusieurs développeurs donc, du monde du logiciel libre qui ont demandé à Free, qui ont accusé Free en fait de violer la GPL, à savoir que Free aurait modifié donc des sources de logiciels sous licence GPL, les a intégrées donc à sa Freebox, donc qui est le boîtier que Free met à disposition des utilisateurs pour recevoir la DSL, et donc n'a pas diffusé ses sources. Donc là-dessus, il y a Xavier Niels hein, qui a répondu sur
PC. C'est le patron de Free. Hein.
Qui est le patron de Free, oui, qui a répondu sur PC Impact. Et il faut savoir qu'en fait, la GPL impose de redonner les sources si on redistribue le logiciel à d'autres personnes. Et que c'est vraiment sur cette notion de distribution que quel enjeu en fait dans l'affrontement on va dire entre les gens du logiciel libre et Free. Et donc Xavier Niels a dit que la Freebox est considérée comme faisant partie de l'infrastructure réseau de Free et n'appartient jamais au client. Le logiciel GPL modifié n'est donc jamais distribué, il ne sort pas du réseau de Free. En fait, ce dernier cas prête mal à controverse et les GNU voudraient bien essayer de contrer ce genre de situation dans la version 3 de la GPL, mais pour l'instant c'est encore assez flou.
D'accord. Donc Frédéric, à ma connaissance, ça fait un bout de temps qu'il est demandé à Free de redistribuer le code qui a été modifié.
Alors Free, effectivement, c'est un cas particulier dans le sens que c'est l'un des rares cas où on a affaire à une mauvaise foi de la part de Free depuis des années. Alors j'entends bien l'argument qui vient d'être évoqué par David, qui vient de Xavier Niel, le président de Free. Juridiquement, cet argument sera démontré au procès de façon parfaitement juridique. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais simplement, si on regarde simplement l'esprit, il est quand même aberrant de dire qu'il n'y a pas de distribution de logiciels à partir du moment où vous avez une box qui est diffusée à des millions d'abonnés en France, qui sans ces outils-là ne pourrait pas être fonctionnelle. Donc il y a une distribution, ça c'est de façon très claire. Dans l'esprit même de la GPL, il y a distribution. D'un point de vue juridique, nous avons des arguments que nous démontrerons si le procès a lieu pour démontrer effectivement que l'argument que c'est une sorte d'ambassade de Free à domicile, parce qu'en fait l'argument de Free c'est de dire le boîtier ADSL, la Freebox c'est une ambassade de Free chez vous, ne tient absolument pas la route. Ça fait des années qu'on discute avec eux, parce qu'il faut savoir que Free quand même fait beaucoup de choses pour le logiciel libre aussi à côté de ça. Que pour des raisons assez obscures, ils n'ont jamais voulu reconnaître cette violation de GPL, qui pour eux ne représenterait en termes de travail pas grand-chose, c'est mettre un petit message disant que ben voilà, il y a du code logiciel libre sur ma Freebox, vous pouvez le télécharger à tel endroit. Donc au bout d'un certain temps et au bout d'un certain nombre de discussions et d'engagements, c'est-à-dire que moi je me souviens bien que l'an dernier, on avait eu un sorte d'engagement que le problème serait réglé assez rapidement, et ben des auteurs effectivement de logiciels libres, en l'occurrence donc Aradvelt, qui est un auteur allemand qui a développé un certain nombre de logiciels libres et qui sont présents dans la Freebox, a décidé effectivement d'attaquer Free, donc en deux phases. La première, c'est l'envoi il y a une quinzaine de jours d'un courrier, d'une injonction, lui demandant de respecter les termes de la GPL sous 30 jours. Donc il reste à peu près une dizaine de jours avant la fin de cette injonction. Et si Free ne donne pas suite à cette injonction, effectivement, il y aura une poursuite au niveau d'un tribunal français. Pour le simple respect effectivement de la GPL. Très clairement, c'est pas le seul cas dans les distributeurs de box. D'autres sont potentiellement concernés. Ça peut être le cas d'Orange, de 9CGTL et d'autres. Ça, on n'a pas encore de détails précis. Mais la principale caractéristique de ce dossier-là, c'est qu'effectivement, comme tu dis, Luc, ça fait des années qu'on discute avec eux, qu'on est en face d'une vraie mauvaise foi. qu'on a essayé toutes les phases de conciliation, de discussion, et puis qu'à un moment, c'est clair, Free ne veut pas respecter les termes de la GPL. Bon, bah, très bien, on va aller au procès pour faire respecter. Alors, en termes de délai, je pense qu'on aura un premier résultat courant 2008 et peut-être fin 2009, parce que je ne pense pas que Free, tout d'un coup, dans les 10 jours qui viennent, va se mettre à respecter l'injonction. Bon, j'en serais ravi, en tout cas. Il faut savoir quand même que, aussi par rapport à Xavier Niel a connexionné les procès ces dernières années. Et si on regarde bien, c'est quelqu'un qui aime bien aller au procès, même quand il sait qu'il a tort. Je me souviens d'un article dans Le Monde, il y a quelques années, sur un de ses procès qui concernait un autre dossier sur lequel il avait été attaqué, concernant son passé dans les dans le Minitel rose et dans le rose, quoi, en gros. Et en fait, il disait, ou c'est un avocat qui disait en fait, que Xavier Niel savait pertinemment qu'il avait tort de faire ça, mais qu'il pouvait pas s'en empêcher. Et je pense que quelque part dans cette position de Free, il y a beaucoup de Xavier Niel. Je pense que c'est beaucoup lié à Xavier Niel et qu'à mon avis, si le dirigeant de Free était quelqu'un d'autre, ce problème-là se serait réglé très différemment. Parce que je pense que dans les équipes de Free, ils savent pertinemment que la GPL n'est pas respectée et que donc Free est en tort. Donc voilà, maintenant il reste une dizaine de jours pour Free pour respecter l'injonction. Ensuite, il y aura un procès, évidemment, par les auteurs qui sont en cause. Et on verra bien ce que ça donnera au niveau juridique dans les mois qui viennent.
Mais quel est l'intérêt pour l'utilisateur final, justement, d'avoir les sources de cette box, sachant que de toute façon, les conditions générales de vente font qu'il n'a pas le droit de la modifier, sinon il perd toute garantie. Et comme le précise justement Xavier Niel, la box appartient toujours à Free.
Alors juridiquement, la box n'appartient pas toujours à Free. Par exemple, vous résiliez votre abonnement, vous ne payez pas, la box vous appartient. Le fait qu'on ne puisse pas modifier, qu'on perde la garantie, peu importe. Si un utilisateur a envie de regarder comment ça fonctionne pour son propre usage, il est clair que pour un utilisateur de base, aujourd'hui, l'intérêt d'avoir accès au code source n'est pas important, n'est pas fondamental. C'est pas comme d'avoir accès au code source d'autres logiciels. Mais là, en l'occurrence, le problème n'est pas tellement du côté des utilisateurs, le problème est du côté des auteurs. Vous avez des auteurs de logiciels libres qui contribuent bénévolement à produire du code. Ils ont choisi comme licence la licence GPL, ils n'ont pas choisi une autre licence, hein, du logiciel libre, ils ont choisi la GPL justement parce que la GPL dit qu'aucun intermédiaire pourra retirer les libertés que vous avez voulu conférer aux utilisateurs. Donc là, on est face à une violation aujourd'hui du droit d'auteur par une société importante. Et c'est là le point essentiel. C'est que le droit d'auteur aujourd'hui, dans la partie logiciel libre, au niveau de la GPL, il y a juste un petit truc à respecter. Si on ne respecte pas ce petit truc-là, à la limite, si Free ne souhaitait pas respecter ce point-là, ils avaient le droit. Mais à ce moment-là, ils n'utilisaient pas le logiciel sous GPL. Ils redéveloppaient tout, from scratch. Là, ils ont voulu prendre dans un pot commun, ne pas respecter les règles, et se dire, oh, de toute façon, les utilisateurs, ils s'en foutent d'avoir le code source. De toute façon, la Freebox est une ambassade de Free chez l'utilisateur dont juridiquement, il n'y a pas de distribution. Non, ça ne tient pas à la route, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas où l'accès au code source est plus intéressant pour des utilisateurs. Mais à la base, on rappelle quand même que le logiciel libre, il y a du droit d'auteur. Qu'il y a une volonté des auteurs de diffuser leur code. Mais simplement, ceux qui utilisent la GPL demandent une petite chose. Simplement, moi, je partage avec vous, vous partagez selon les mêmes termes. En France, je le rappelle, le respect du droit d'auteur, enfin la contrefaçon, c'est, si je me souviens bien, jusqu'à 3 ans de prison et 500 000 euros d'amende. C'est du pénal. C'est quelque chose qui, depuis quelques années, on nous rabâche les oreilles sur un autre sujet, qui est le sujet culturel. On doit respecter les auteurs et sauver les auteurs, les artistes, etc. Je suis tout à fait d'accord. Dans le cas du logiciel libre, bah oui, il faut aussi respecter la volonté des auteurs. Donc là, en l'occurrence, Free ne le veut pas. Il y a eu carrément, très clairement de la mauvaise foi. Nous, on a, depuis 5-6 ans, on traite très souvent des cas comme ça. Et je répète, la plupart des cas, c'est une méconnaissance de la GPL, donc ça se règle très rapidement. Dans quelques cas, il y a une certaine mauvaise foi ou un manque de disponibilité au moment où le problème survient. Je vais prendre un exemple, c'est-à-dire vous développez un projet, une structure développe un projet, elle prend des trucs sous GPL, elle se rend pas compte qu'elle doit redistribuer, le projet est finalisé. Donc à ce moment-là, les équipes de développement sont mises sur autre chose. Et finalement, là, vous n'avez plus en face de vous qu'un seul contact qui fait le suivi quelque part. Et donc cette personne n'a pas forcément, par exemple, les ressources, 10 mois plus tard, quand le problème survient, de dire à ses équipes de développement, ben là, il faudrait mettre les codes sources à tel endroit, les notices, etc. Et donc, régler ce problème-là prend un peu de temps. Ça peut prendre 6 mois, 1 an. Moi, je connais un cas où ça a pris 6 mois avec une institution française, tout simplement parce que l'équipe de développement n'était plus là. Mais il n'y avait pas forcément de mauvaise foi. Simplement, l'équipe de dev n'était pas là. Donc, le faire dès le départ est important. Le cas de Free, c'est un des rares cas où il y a une vraie volonté de ne pas respecter la GPL. Ben, les auteurs ont décidé d'aller en justice pour faire respecter leurs droits. Et je, juste pour finir, je rappelle que avoir des, prendre des avocats, ça coûte beaucoup d'argent. Les auteurs de logiciels n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc on a lancé une campagne de souscription pour aider à payer les avocats. Parce qu'évidemment, ça va aller sans doute au procès. Donc vous allez sur Google, vous cherchez logiciel libre Freebox et vous aurez le site de la campagne. Donc j'encourage les gens à donner ne serait-ce que 10 euros ou un peu plus s'ils peuvent, simplement pour permettre de respecter le droit des auteurs de logiciels libres.
Cyprien,
et en tout cas sur ce sujet, donc la GPL3 va préciser ce genre de questions, et de manière optionnelle en tout cas, je crois. Et il y a également une licence qui vient de sortir, la Alfredo Public License, qui va préciser ces choses-là.
C'est pas la même chose. D'abord, c'est pas Alfredo, c'est Afero.
Afero, pardon.
Mais en fait, ça ne concerne pas le même cas. Là, le cas de Free est un cas où on a une vraie distribution du logiciel malgré ce que dit Free chez l'abonné. Le cas de l'Afero GPL traite du cas en fait des services en ligne, en fait, des sites internet qui sont basés sur du logiciel libre, dans lequel il n'y a pas en tant que tel effectivement de diffusion du logiciel, vu que la personne qui se connecte sur le site a juste un accès en fait au service web. Donc ça, ce cas-là n'était pas traité effectivement par la GPL, et donc il y a une version de la GPL qui est donc l'Afero GPL. Qui traite le cas effectivement des logiciels libres qui servent à gérer des sites internet. Mais dans le cas de Freebox, on n'est pas dans ce cas-là. Dans le cas de la Freebox, c'est du logiciel libre qui est embarqué dans une box qui est diffusée chez l'abonné. Exactement la même chose que les box Orange, 9CGTL, qui pour certaines incorporent également du logiciel libre et qui pour certaines, je pense à 9CGTL, ont mis en place et ont mis en ligne les sources qui correspondent aux modifications qu'ils ont faites. Donc de ce point de vue-là, par exemple, 9CGTL, j'ai l'impression qu'ils respectent la GPL. Quant à Orange, pour l'instant, on ne s'est pas penché en détail sur le cas, mais je suppose qu'il y a du logiciel libre derrière, et donc je suppose que s'il y a du logiciel libre derrière, Orange respectera les termes de la GPL, parce qu'évidemment, une fois que le procès Free sera fini et gagné, les autres, effectivement, fournisseurs de box, donc que ce soit Orange ou d'autres, évidemment, on se penchera sur leur cas, évidemment, pour voir effectivement si eux aussi respectent la GPL.
Dans les arguments qui ont été opposés, on a parfois évoqué l'idée que cette démarche serait une sorte de torpille, un truc, une opération sous-marin de la part de Neuf pour essayer de plomber Free et ce genre de choses. Je sais pas, peut-être que Cyprien peut... Je sais pas si, non, tu connais pas suffisamment la question.
Ça a été évoqué parce que au moment où publiquement cette affaire est sortie, j'insiste bien, publiquement, c'est-à-dire dans la presse, alors que c'est quand même quelque chose qui traîne sur les forums depuis 2-3 ans, il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, un journaliste s'est intéressé effectivement au sujet, et c'est tombé à peu près au moment où, je crois, Neuf entrait en bourse, je ne sais plus s'il faisait une acquisition, quelque chose comme ça. Enfin, c'était en septembre de l'an dernier, c'était à peu près il y a un an. Alors, est-ce que c'est une torpille de Neuf pour couler Free ? Franchement, je n'y crois pas une seule seconde, tout simplement parce que Neuf n'a strictement rien à voir dans les actions des auteurs de logiciels libres qui sont impliqués dans ce sujet-là. Est-ce que ça fait plaisir à Neuf de voir Free attaquer ? Sans doute, mais en même temps, je constate simplement que sur la partie logiciels libres, Neuf respecte la GPL, a priori. Alors, je sais qu'il y a quelques petits cas qui sont en cours, notamment sur les téléphones, sur un téléphone, mais qui sont, je crois, en cours de résolution, alors que Free ne respecte pas la GPL. Mais inversement, je dirais aussi que Neuf, par exemple, sur la partie DRM, font des choses qui ne sont pas du tout acceptables, on leur a dit. Donc pour moi, il y a aucun rapport entre les deux. Pour être très clair, par exemple, 9CGTL est membre de l'April. On n'a jamais parlé de ça en tant que membre de l'April. On a plutôt parlé de la partie logiciel libre chez Neuf et de la partie DRM. Je leur ai notamment expliqué que leur complicité pour mettre en place la riposte graduée et les radars était quelque chose qui n'était pas acceptable, ce qu'on a d'ailleurs dit publiquement. Mais il n'y a aucune opération de Neuf contre ça. Qu'ils soient contents, je dirais, sans doute. Maintenant, je pense qu'Orange, c'est un peu la même chose. Ils doivent être tout à fait contents. Maintenant, ils se posent tous quand même la question de se dire que, une fois que l'affaire Free sera terminée, effectivement, les auteurs de logiciels libres se pencheront sur les cas d'Orange, de Neuf et compagnie. Donc, ils sont, je pense, tous en train d'étudier un petit peu ce qu'eux, ils ont fait pour être en règle au moment où ça va se produire. Donc, non, je dis qu'il n'y a vraiment, vraiment aucune action de Neuf derrière tout ça. C'est simplement qu'ils soient contents, ça c'est sans doute tout à fait vrai. Mais ceci dit, Free fait à côté de choses, beaucoup de choses pour le logiciel libre depuis des années. C'est aussi pour ça que je dis que quelque part c'est assez incompréhensible de voir ce refus de reconnaître la réalité et que pour moi c'est beaucoup lié à la personnalité de Xavier Niel.
C'est vrai qu'il y a un argument en tout cas un questionnement qu'on entend souvent, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont à perdre en donnant les sources ? Parce que ça n'a rien de stratégique a priori. Peut-être que Cyprien, sur le côté technique, est-ce que tu connais un petit peu
Sur le côté technique, ils ont sûrement apporté quelques modifications propres à leur box, mais c'est vrai que l'essentiel est sans doute repris d'ailleurs. Et probablement, Je connais mal ce dossier-là, ce côté-là.
D'un point de vue technique, bon, le jour où ils mettront en ligne les sources, on verra ce qu'ils ont modifié. Ils disent effectivement que sans doute pour des aspects sécurité, il vaut mieux qu'ils gardent leurs modifications qu'ils ont faites secrètes, etc. Et je dirais, peu importe, s'ils veulent faire ça, ils ont qu'à le faire entièrement en logiciel propriétaire, ils n'auront aucun souci. Mais qu'ils n'utilisent pas du logiciel libre qui est sous GPL pour ça. Mais je pense que, très honnêtement, je pense que l'argument, il est lié vraiment à plus un blocage de Xavier Niel sur cet aspect-là, qui ne veut pas reconnaître que la GPL n'est pas respectée dans ce cadre-là, et qui est prêt à aller au procès pour ça, parce qu'il sait qu'il a beaucoup d'argent sans doute. Peut-être qu'il pensait que les auteurs n'iraient tout simplement pas au procès, peut-être qu'il pensait que ça s'arrêterait là. Bah, sauf qu'au bout d'un certain temps, les auteurs, lassés de voir leurs droits non respectés, se sont dit, bah, même si ça coûte de l'argent, on va y aller, on va faire respecter nos droits en justice, parce qu'on ne demande pas grand-chose aux gens quand on diffuse du code sous licence GPL. Donc, la seule chose qu'on demande, on espère qu'elle soit respectée, surtout par des structures de la taille de neuf, qui quand même, je dirais que sans le logiciel libre, également, auraient peut-être des problèmes à mettre en place leurs modèles économiques. Il ne faut quand même pas l'oublier, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup dans le logiciel libre. Alors, certes, c'est fait pour ça. Mais la seule chose qu'on leur demande, c'est de reverser ce qu'ils ont fait quand c'est du GPL, ben voilà, qui respectent les règles du jeu, ou alors qui n'utilisent pas ces règles du jeu, qui jouent un autre jeu.
Ok, très bien. Bah, on va s'écouter un petit morceau. Donc la musique, c'est un groupe qui s'appelle Nikad, qui est un groupe, j'allais dire hollandais, c'est un groupe international donc d'étudiants en musique qui sont rencontrés en Hollande pendant leur formation. Donc c'était le premier morceau, et on va mettre le second morceau maintenant. Donc Symbiose de retour, on est sur Radio Libertaire 89.4. Bon, on a parlé un petit peu de Free, maintenant on va passer à autre chose. On va parler, David, on parle de la commission Liven.
De la vente liée.
L'Aventlier. L'Aventlier. Alors, on va parler de l'Aventlier. Donc, l'Aventlier, c'est une notion, a priori, si je ne me trompe pas, juridique, hein, qui est de l'idée est la suivante, c'est on vend à quelqu'un un produit quelconque, et en vendant ce produit, on lui en met un autre, et en fait, on impose le fait d'acheter un second produit, alors qu'il existe des alternatives ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est interdit par la loi, et qui aujourd'hui, en tout cas, selon le point de vue des personnes qui sont là aujourd'hui, se pratique abondamment dans le domaine de l'informatique. Donc Cyprien, est-ce que tu peux nous présenter ça un petit peu plus dans le détail?
Voilà, tout à fait. Donc Cyprien Gay, je suis membre de la FUL et c'est assez dit que je fais partie du groupe qui s'occupe de cette question-là. Donc l'Aventlier dans le domaine informatique, c'est un peu la chose suivante. Donc l'Aventlier en général, c'est effectivement que on peut vendre plusieurs pots de yaourt attachés. Ça c'est devenu l'usage et ça ne lèse pas grand monde parce qu'en général on mange plus qu'un yaourt. Par contre, deux autres produits, quels qu'ils soient, en fait, que ce soit d'ailleurs des biens matériels ou des services, on n'a pas le droit de les lier, sauf à les vendre également séparément. Et dans le domaine informatique, en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a des ordinateurs, d'une part, et puis les logiciels qui sont installés dessus, c'est-à-dire, d'une part, le système d'exploitation qui fait tourner la machine, et puis les logiciels qui tournent sur le système d'exploitation. Voilà, donc ces deux produits sont liés en général quand on les achète. La plupart des ordinateurs qu'on peut acheter sont vendus de cette manière-là. Et ça, en fait, c'est un problème qui lèse un certain nombre de personnes, qui lèse en fait la plupart des gens. Je vais essayer de vous le démontrer. Évidemment, la contestation de ça est née dans le domaine des logiciels libres, parce que les gens qui utilisent des logiciels libres n'utilisent pas les logiciels qui sont préinstallés, donc eux ont été tout de suite sensibles à ça. Et donc du coup, on a commencé à s'y intéresser.
Pour se retrouver un petit peu, on peut donner des noms. Hein,
oui, tout à fait.
L'ordinateur, c'est le PC, quoi. C'est le truc matériel.
Le PC ou le portable. Hein,
voilà, le portable. On a donc en logiciel, en système d'exploitation, le plus connu, celui que beaucoup de monde connaît, etc., au boulot ou chez soi, c'est Windows, donc le système d'exploitation de Microsoft. Donc, quand on est complètement novice en informatique, ça paraît une évidence, mais tout à l'heure on parle de distribution, de Linux, ce sont d'autres systèmes d'exploitation. On a Mac qui est un autre système d'exploitation, et on peut faire tourner un même ordinateur avec plusieurs systèmes d'exploitation. On n'a pas de lien direct.
Absolument, c'était exactement comme une voiture. Quand on achète une voiture, bien sûr, pour rouler, de manière à ce qu'on ne risque pas disons, en cas d'accident, les choses se passent bien, si je puis dire, on est obligé de prendre une assurance. Donc ça, c'est un fait, on ne peut pas rouler sans assurance. En revanche, il n'arrive pas, à ma connaissance, qu'un constructeur automobile, qu'un concessionnaire vous vende une voiture en vous obligeant à prendre ce contrat-ci d'assurance. Ce n'est pas le cas. La loi vous oblige à en prendre un, mais c'est tout, c'est à vous de choisir. Ici, c'est un peu la situation inverse, c'est-à-dire que, en règle générale encore, on vous vend un ordinateur avec tout de suite le système d'exploitation dessus, avec Windows ou avec macOS dessus. Donc voilà, c'est cela la question. Alors maintenant, je disais, ça lèse les personnes qui veulent utiliser autre chose, mais en fait, c'est bien plus large que ça. Ça lèse également tout simplement les utilisateurs qui utilisent déjà, par exemple, Windows, qui ont acheté Windows séparément, qui ont par exemple acheté Windows XP récemment, et puis une version boîte sur leur ancien ordinateur. Leur ancien ordinateur a rendu l'âme, ils en achètent un autre, et là, ils n'ont pas envie de Windows Vista parce que c'est trop gourmand, parce que peu importe, ou parce qu'ils sont habitués à Windows XP. Ils ont le droit de réutiliser leur licence boîte, tout à fait le droit, et par contre, ils sont obligés au passage de payer Windows Vista aussi, la licence de Windows Vista. Donc voilà, ça, ces utilisateurs-là sont lésés, c'est un fait. Et c'est même beaucoup plus répandu que ça, c'est-à-dire que les administrations, par exemple, les collectivités locales, ou l'éducation nationale, ont en général des accords avec, en l'occurrence, Microsoft, la plupart du temps, pour avoir des licences à un prix réduit, c'est-à-dire quand même quelques dizaines d'euros. Par conséquent, les ordinateurs qu'ils achètent, ils peuvent utiliser cette licence-là, sans avoir besoin d'acheter une autre licence. Eh bien, souvent, les collectivités sont obligées d'acheter quand même l'ordinateur avec la licence OEM, la licence préinstallée. Et voilà. Et donc, autrement dit, ils payent deux fois pour le même service, à savoir ce système d'exploitation.
Alors, moi, j'avais une question. Dans la mesure où les débats ont repris à l'Assemblée en début de semaine dernière, moi, ma question, c'est que la loi semble claire sur le sujet depuis un paquet d'années. Et néanmoins, on en reparle à chaque fois, et même là, il y a à nouveau des débats donc, qui seront introduits à l'Assemblée. Pourquoi finalement on en revient toujours à réexposer le même problème alors que finalement il semble qu'il n'y ait pas ambiguïté?
Alors normalement il ne devrait pas y avoir ambiguïté. En fait, les arguments tournent en général autour d'une exception à cette loi sur la vente liée. La loi dit, donc c'est le code de la consommation, qui dit qu'il y a une exception dans le cas de l'intérêt du consommateur. S'il y a un intérêt pour le consommateur, dans ce cas-là on tolère la vente liée. C'est ça l'argument principal, c'est l'argument qui a été ressorti par plusieurs ministres depuis quelques années dans les réponses aux questions que des parlementaires leur posent. Ils disent, dans le domaine informatique, l'intérêt du consommateur est qu'il y ait un système préinstallé, que ça marche dès qu'on allume l'ordinateur, et voilà.
On peut citer à ce titre donc, la phrase de Luc Châtel, qui est secrétaire d'État, qui, en répondant à une question de Martine Billard à l'Assemblée, a dit que, en parlant de la vente liée, que cette disposition n'est certes pas strictement appliquée par le juge qui considère que le bon fonctionnement de l'ordinateur est primordial. Ouais. Donc c'est bien à ça que tu fais allusion.
C'est tout à fait ça. Alors le bon fonctionnement, c'est effectivement le fait qu'il y ait quelque chose qui permette de le faire tourner. C'est un peu comme une voiture a besoin, si je puis dire, d'une assurance pour rouler sur l'espace public. Bien, c'est un peu la même chose. Ici, en fait, il faut bien voir qu'il y a deux choses distinctes, en fait, qu'on amalgame, et cette réponse fallacieuse, elle vient de cet amalgame, c'est qu'il y a deux choses distinctes, le fait qu'il y ait des choses préinstallées, cela ou autre chose, les logiciels habituellement préinstallés ou d'autres, ça c'est effectivement dans l'intérêt du consommateur, il n'y a aucun doute. Le fait, par contre, qu'on soit obligé de les payer, même si on a une autre licence d'utilisation des mêmes logiciels ou d'autres logiciels, cette obligation de payer, ça, ce n'est pas de l'intérêt du consommateur. Donc en fait, c'est cet amalgame entre l'intérêt du consommateur d'avoir quelque chose de prêt à fonctionner et l'obligation du consommateur de payer quelque chose même s'il n'en a pas besoin, cet amalgame-là, évidemment, est fallacieux.
D'accord. Et donc, il y avait aussi une autre réponse de Luc Châtel qui consiste à dire, donc je le cite une fois de plus, « Le gouvernement a donc confié à la DGCCRF une mission d'expertise qui est suspendue, mais reprendra lorsque seront connus les résultats de l'action intentée par une association de consommateurs, c'est-à-dire au début de l'année prochaine. Donc, une fois de plus, quel est l'objectif de cette mission confiée à la DGCCRF? Est-ce qu'on peut en dire plus sur l'action intentée par cette association de consommateurs?
Oui, bien sûr. Donc, la mission de la DGCCRF, la DGCCRF a été interpellée depuis plusieurs années par notamment la FUL et le groupe de gens qui tournent autour de ces questions-là. Et puis récemment une mission de la part du gouvernement. La réponse de la DGCCRF, ça a été à chaque fois de se retrancher derrière cet intérêt du consommateur. Et pour l'instant, elle n'a pas fait autre chose. Et là, la réponse du secrétaire d'État Luc Châtel, c'est un peu la même chose. C'est attendons le procès et là, nous agirons. Alors, le procès dont il s'agit, c'est l'UFC que choisir. L'association donc, de défense des consommateurs, qui a assigné, donc c'était en décembre 2006, a assigné à la fois un constructeur, à savoir HP, Hewlett-Packard, un distributeur, à savoir Auchan, un magasin Auchan à Bagnolet, et puis Darty Léal, donc pour non-respect de la vente liée, exactement cette question-là.
Tiens, Frédéric, tu viens d'intervenir.
Oui, je voulais revenir quand même sur la DGCCRF, sur Luc Châtel. L'April, on avait participé avec nos amis de la FUL à la première réunion de la DGCCRF en novembre 2006. En fait, à l'époque, le but de la DGCCRF, qui donc avait été alertée sur ces problématiques de vente liée, c'était de réunir en fait, dans un premier temps, les consommateurs. Donc il y avait l'UFC que choisir, il y avait la CLCV, il y avait l'April, il y avait la FUL, il y avait deux, trois autres structures. Pour d'abord avoir une exposition des problèmes et des solutions que nous pourrions proposer via des codes d'activation, par exemple, qui permettaient de simplifier le travail des constructeurs. Puis une deuxième réunion qui devait réunir uniquement les industriels, donc a eu lieu en décembre 2006. Et il devait y avoir une réunion de synthèse début de l'année 2007, censée réunir consommateurs et industriels pour que les uns et les autres exposent leurs problématiques et qu'on arrive à des solutions concrètes pour le respect de la vente liée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, la DGCCRF est parfaitement au courant de l'illégalité de la situation, évidemment. Deux, est parfaitement au courant des solutions qui sont proposées par les différentes associations de consommateurs. Par contre, elle n'a pas organisé cette réunion de conciliation avec les industriels. Nicolas Sarkozy, dans le questionnaire que l'April lui avait adressé pendant la campagne présidentielle 2007 sur l'ensemble des sujets qui nous intéressent, sur la partie vente liée, avait clairement dit qu'il attendait les résultats des consultations à la DGCCRF pour se faire une opinion et prendre les actions concrètes. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate avec Luc Chatel ? C'est que Luc Chatel, interpellé par des députés, reconnaît en fait qu'ils ont suspendu les travaux de la DGCCRF. Et l'argument qui est avancé, c'est de dire, bon, en gros, il y a une association de consommateurs, donc l'UFC, qui a attaqué trois structures, donc on va attendre les résultats du procès. On attend les résultats du procès pourquoi ? Pour avoir une confirmation de la jurisprudence qui est reconnue que la vente est illégale. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où, en fait, l'UFC a été obligé d'attaquer parce que la DGCCRF avait arrêté ses travaux. C'est pas dans l'autre sens. C'est parce que, justement, la DGCCRF, finalement, et le gouvernement ne faisaient rien pour mettre un terme à cette vente illégale que l'UFC était obligé d'attaquer. Et si on se souvient bien, Luc Chatel, quand il était député, donc aujourd'hui, il est secrétaire d'État à la consommation. Il y a quelques années, il était député. Il avait adressé une question à l'ancien ministre en charge de la consommation, déjà sur la question des ventes liées. Donc c'était quelqu'un qui est parfaitement sensibilisé à cette question-là. Il avait également adressé une question sur l'action de groupe. Il avait même été auteur d'une proposition de loi sur l'action de groupe, donc permettant à des consommateurs de se regrouper pour faire respecter la loi, ce qui, par exemple, pour lequel la vente liée pourrait nous intéresser, évidemment. Et aujourd'hui, en tant que secrétaire d'État à la consommation, un, il nie en hémicycle la réalité de la problématique de la vente liée, parce que l'une des réponses qu'il a faites à Martine Billard, c'est de dire qu'aujourd'hui les fabricants proposent des ordinateurs nus ou équipés du système d'exploitation logiciel libre, ce qui est globalement faux.
Tout à fait, oui, j'ai sa citation. En fait, il répondait à une question de Jean-Yves Ledéo.
Jean-Yves Ledéo, oui, voilà.
Et il dit, je cite, « Je voulais vous indiquer qu'actuellement, une grande partie des fabricants proposent des ordinateurs nus ou avec le système d'exploitation Linux, qui lui est un système d'exploitation qui est gratuit. »
Alors cette affirmation est tout à fait correcte. Une grande partie des distributeurs proposent des ordinateurs nus ou avec un autre système. La seule chose, c'est qu'ils proposent quelques ordinateurs nus ou avec un autre système. Si je veux cet ordinateur-là que j'ai devant moi, c'est celui qui matériellement m'intéresse le plus, en général, je ne peux pas l'acheter sans...
Ils parlent de distributeurs ou de constructeurs ?
Une grande partie des fabricants proposent.
Fabricants.
Donc ils parlent
parce que concrètement, enfin, je pense que ça va être aussi intéressant de parler très concrètement si on va dans un supermarché pour acheter ou à la Fnac pour acheter un ordinateur et qu'on veut pas le Windows parce qu'on en a déjà un ou qu'on veut installer Linux ou qu'on veut juste avoir l'ordinateur pour faire beau dans son salon. Il faut être stupide, mais concrètement, comment ça se passe ? Enfin, il y a des gens qui ont essayé.
Ah, bien sûr, il y a des gens qui ont essayé. Bonjour, monsieur, je viens de voir dans votre rayon cet ordinateur-là. Il me plaît beaucoup, absolument. Je vais l'acheter, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, monsieur, venez donc à la caisse. Juste un détail, je n'aurai pas l'usage de Windows qui est là. J'aimerais qu'il soit déduit, que son prix soit déduit. De combien est-ce ? Comment ça, déduire le prix ? De quoi parlez-vous ? Bon, d'une part, en général, ils ne savent pas vraiment, ils éludent totalement la question. D'autre part, c'est vrai que les magasins, même si on va voir le chef de rayon, même si on va voir le directeur du magasin, les magasins ne savent pas quel est le prix de Windows. Au moins, ils sont obligés de ne pas répondre, si jamais ils le savent. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, quand on se tourne vraiment vers le constructeur ensuite, parce que en général, quand on allume l'ordinateur, on peut voir s'afficher le contrat d'utilisateur du système d'exploitation et des logiciels, qu'on appelle le CLUF, le contrat de licence pour l'utilisateur final. Donc ce contrat de licence prévoit explicitement qu'on puisse refuser d'utiliser le logiciel et que dans ce cas-là, il faille se diriger vers le constructeur. Donc si on appelle le constructeur, si on lui écrit, on lui dit, voilà, je voudrais me faire rembourser. Et là, comment ça se passe concrètement, c'est qu'ils vous sortent à ce moment-là des modalités de remboursement éventuellement qui sont totalement disproportionnées. Ils proposent en général une somme de 25-30 euros. D'une part, d'autre part, l'obligation d'envoyer votre ordinateur au constructeur pour qu'ils effacent eux-mêmes sur le disque dur.
Frais, bien sûr.
À nos frais, évidemment.
Ouais. À ce titre, on peut quand même parler d'un jugement qui a été rendu, c'était début septembre, je crois.
C'est ça, le jugement a été rendu en juillet et il a été rendu public en septembre. Alors ce procès a été gagné par le particulier contre la société Acer, donc c'est un jugement de la juridiction de proximité de Puteaux. Et alors, ce jugement est d'ailleurs très intéressant, car il se fonde, d'une part, sur ce contrat, le CLUF, sur ce contrat d'utilisateur final, pour justifier, disons, la bonne foi du consommateur. Et d'autre part, la somme que le constructeur a été obligé de rembourser contient d'une part ce qui concerne Windows et d'autre part ce qui contient les logiciels qui étaient installés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le prix des logiciels et même la nature des logiciels étaient en fait mal affichés au moment de la vente. C'est-à-dire que certains de ces logiciels étaient des logiciels en version d'essai, en version non complète. et ceci n'était pas très clairement affiché, si bien que l'utilisateur a demandé le remboursement des logiciels, voilà, en version complète, parce qu'il n'y avait de bonne foi, il ne pouvait pas savoir si c'était des versions complètes ou non. Et le juge lui a donné raison et il s'est fait rembourser le prix.
C'est-à-dire qu'on lui a fait miroiter toute une série de logiciels alors qu'en fait c'était que des versions
d'essai. Exactement. Donc de bonne foi, il peut croire avoir payé l'ensemble des logiciels. Et,
voilà. C'est-à-dire pour ça qu'en fait dans les demandes qui sont faites, qui sont très simples, en fait, ce qu'on demande en fait c'est un affichage des prix de chacun des éléments, matériel et logiciel, un affichage des conditions d'utilisation des éléments, donc notamment les licences logicielles qui disent effectivement, bah là par exemple ce logiciel vous pouvez l'utiliser uniquement sur ce poste, ou c'est une version d'évaluation, etc., etc. Et troisième point, l'optionnalité, pouvoir effectivement acheter qu'un seul des éléments. Et si ces trois points-là étaient respectés, effectivement, le consommateur qui demain va dans un grand magasin acheter un ordinateur, il pourrait acheter un ordinateur en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc effectivement, il y a certains consommateurs qui ont le courage, qui passent le temps à monter un dossier pour aller au juge de proximité et effectivement obtenir gain de cause. Mais ce qui est parfaitement scandaleux, c'est qu'ils obtiennent gain de cause sur une situation qui est déjà illégale, qui est reconnue légale par la DGCCRF, qui est reconnue légale par le gouvernement, voire les 4 ou 5 réponses qui ont déjà été faites par le gouvernement ou les gouvernements précédents sur cette question-là, et que finalement, rien n'est fait par les instances qui sont censées rétablir cette concurrence. Et c'est pour ça qu'effectivement, il était intéressant dans le projet de loi qui n'était pas lié à la vente, d'ailleurs. Le projet de loi, c'est le rétablissement de la concurrence en faveur des consommateurs. Il était intéressant que ce dossier revienne en discussion via deux amendements posés par des députés pour qu'enfin, on ait une réponse du secrétaire d'État sur l'immobilisme de la DGCCRF. Parce que, pour le moment, on se posait la question de savoir... La DGCCRF a changé il n'y a pas très longtemps de directeur général. Son nouveau directeur général a été nommé il y a moins d'un mois. Donc on pouvait se dire... L'ancien est en partie il y a 3-4 mois. On pouvait se dire, bon, il y a un peu de flottement la direction, le dossier va reprendre. Là, au moins, on sait que le dossier ne reprendra pas avant, de toute façon, début 2008, avant le résultat du procès de l'UFC contre Auchan, Darty et HP. Et on constate très clairement, effectivement, que rien ne bougera d'ici là, ou rien ne bougera d'ici un prochain projet de loi. Donc, quelque part, c'est très regrettable. Et c'est vrai que moi, je suis partiellement déçu de voir qu'un député comme Luc Chatel, et c'est là où je vais juste finir tout à l'heure, quand il était député, il pose des questions au gouvernement sur la vente, il propose un projet de loi, une proposition de loi, excusez-moi, sur l'action de groupe, et quand il devient secrétaire d'État, bah, finalement soumis à un certain nombre de lobbies, il en oublie ses convictions de député. Je trouve ça un petit peu embêtant, quoi. Et je trouve qu'on peut remercier les députés qui sont intervenus sur ce sujet-là, ou qui ont déposé des amendements, pour avoir poussé, en fait, Luc Chatel à sortir du bois et à reconnaître publiquement qu'il ne fera rien.
D'accord.
Alors d'autant que les choses qui seraient à faire concrètement sont vraiment minimes. Mmh. Nous parlions tout à l'heure de code d'activation, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose dont nous étions d'ailleurs tous familiers il y a quelques années. C'est la première fois qu'on lance un logiciel, à un moment on doit taper un code à 25 chiffres avec des chiffres et des lettres. Et puis voilà, puis si on tape le bon code, on peut continuer et sinon ça se bloque. En fait, ça existe encore, c'est facile à faire et c'est tout ce qu'il faut. Il suffit donc que le vendeur vendre l'ordinateur avec les logiciels préinstallés sur le disque dur, mais préinstallés à la condition d'entrer ce code d'activation à la première utilisation. Donc il vend ça d'une part, et d'autre part il vend une enveloppe qui contient le code en question. Donc dans ce cas-là, on peut avoir deux prix bien affichés, et c'est très simple. Et donc cette chose aussi simple que ça n'est pas mise en œuvre par manque de volonté politique, comme disait Frédéric à l'instant.
Mais ce qu'il faut bien insister, c'est que c'est vrai que nous, en tant qu'utilisateurs de logiciels libres, on est intéressés par la fin de cette vente liée, parce qu'évidemment, on est les premières victimes, mais ça concerne plus globalement les consommateurs. Et c'est pour ça que des associations comme l'UFC ou la CLCV se battent. Ils ne sont pas spécialement en faveur du logiciel libre. Eux, ils sont simplement en faveur que le consommateur ait le libre choix éclairé quand il va faire un achat, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Et c'est vrai que quand on constate aujourd'hui les annonces de vente de licences Microsoft, Windows Vista et compagnie, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de ces licences, on ne peut pas le calculer, mais un certain nombre de ces licences sont liées à des machines qui ne verront jamais être utilisées avec Windows Vista, qui sont utilisées avec du logiciel libre. Donc nous, en tant qu'utilisateurs de logiciels libres, souvent on est contraint de payer finalement de l'argent, à payer des licences pour Microsoft. Et même quand on a accès à une machine nue, ou quand un constructeur nous fait en gros un rabais en nous disant « bah oui, je vous offre une machine nue, je vais vous faire tant de rabais », à quoi ça correspond? On n'en sait rien en fait. On ne sait pas si ça correspond réellement au prix de licence ou autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et c'est vrai que quand aujourd'hui on va dans le commerce, l'effet que ça a aussi sur le logiciel libre, c'est que les gens, et c'est ce que disait tout à l'heure Luc, pensent que informatique égale Microsoft. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ils ne se posent même pas la question de savoir s'il existe autre chose. Parce que quand ils vont acheter un ordinateur, il y a déjà tout équipé dessus. Donc ils ne se posent même pas la question de savoir s'il existe autre chose. Et même s'ils ont entendu parler qu'il existe autre chose, naturellement pour eux, ils se disent « j'ai un truc qui est installé, je vais le garder. C'est normal, c'est déjà installé. Donc très clairement, c'est un frein à la concurrence contre le logiciel libre, contre d'autres systèmes d'exploitation éventuellement, pas simplement le logiciel libre. C'est une limitation pour le consommateur qui ne peut pas libre choix. Je pense que demain, s'il y avait l'affichage des prix, on verrait exactement combien coûte chaque élément, et on permettrait peut-être aussi d'avoir des prix un peu moins importants sur le matériel, sur la partie logiciel. Donc tout ça, c'est un combat pour les consommateurs qui est bien issu effectivement de la mouvance logiciel libre, mais qui dépasse très largement le logiciel libre, mais pour nous qui est quelque chose d'important. Et il ne faut pas oublier que le principal concurrent aujourd'hui de Microsoft sur le poste de travail, on parlait tout à l'heure de Fedora, d'Ubuntu, il y a aussi Mandriva, qui est une société française, qui fait Mandriva GNU Linux, qui est orienté poste de travail et qui effectivement aujourd'hui ne peut pas toucher le grand public en grande partie à cause effectivement de ces problématiques de vente liée. Ils ont aussi d'autres problèmes avec d'autres lois comme les DRM, mais aujourd'hui voilà, c'est une réalité. Donc on espère que dans le prochain projet de loi qui concernera la consommation, qui a priori devrait arriver peut-être en 2008, cette problématique reviendra à l'ordre du jour, sachant qu'en fait il n'y a rien à modifier dans la loi, il faut juste la faire appliquer, donc il faut juste une volonté politique. On trouve aujourd'hui que la volonté politique n'est pas là, mais au moins c'est assez clairement dit en hémicycle. Donc voilà, c'est au moins les choses sont clairement dites.
Oui, puis on peut citer un autre cas où justement cette fois la vente liée a été appliquée. C'est le cas d'un accord exclusif entre un opérateur téléphonique qui devait être le seul à pouvoir vendre un certain téléphone. Et les concurrents ont fait jouer le cas de la vente liée pour obliger justement à ce qu'on puisse acheter ce fameux téléphone nu. Donc ce fameux téléphone étant en l'occurrence l'iPhone, et donc Orange qui avait un accord d'exclusivité. Et là, bizarrement, effectivement, la vente liée a été appliquée et donc on peut acheter un iPhone sans être forcément abonné Orange.
À quel prix on peut l'acheter aussi?
À 1000 euros.
Le prix est dissuasif en fait. La loi est respectée, mais dans la pratique, le prix est totalement dissuasif.
Effectivement.
Voilà, mais ce qui montre bien que voilà, c'est des pratiques qui génèrent énormément d'argent. Enfin, la vente liée, on a beaucoup parlé de systèmes d'exploitation, mais ça vaut également pour les logiciels. Et on sait que Microsoft a été mis en cause, notamment pour l'intégration d'Internet Explorer à l'époque directement dans Windows. Et ils ont quand même réussi à couler Netscape en son temps. Et derrière, il y a vraiment des enjeux terribles sur le contrôle de marché. Donc, on voit que Firefox arrive à prendre une vraie place et à devenir une alternative.
Mais c'est normal parce que pour Microsoft, c'est un enjeu fondamental. D'ailleurs, on l'a vu parce que la récente visite de Steve Ballmer à Paris, les récentes interventions de Marc Mossé, le directeur juridique, qui en est resté aux comparaisons, lui, entre la voiture et les pneus, alors qu'il sait très bien que d'un côté il y a du matériel et de l'autre du service. On voit bien pour eux c'est un enjeu stratégique, parce que c'est clair que là où l'argent, où Microsoft fait son argent, c'est pas du tout sur le système d'exploitation, tout le monde le sait, c'est sur la partie Office. Mais en quoi la vente liée les favorise? Le fait que quelqu'un achète un ordinateur, il a un système d'exploitation préinstallé Microsoft, naturellement les produits qu'il va installer après, c'est des produits Microsoft. Parce que ça, effectivement, c'est plus simple, ça va mieux marcher. Et moi, je me souviens en 2004, quand il y a eu la première condamnation de la Commission européenne contre Microsoft, concernant en fait Windows Media Player qui était intégré directement dans Microsoft. Condamnation qui a été confirmée il n'y a pas très longtemps, donc 3 ans plus tard. Moi, j'avais écrit un article dans Libération à l'époque, une tribune, qui expliquait en fait que ça ne changerait rien, cette condamnation. Que la seule façon de mettre fin au monopole de Microsoft, c'était de faire appliquer l'illégalité de la vente liée. Parce que c'est à partir du système d'exploitation qu'il faut agir. C'est pas après. Une fois que le système d'exploitation est installé sur le poste de travail, c'est quasiment foutu. Donc c'est véritablement l'enjeu, c'est la vente liée, c'est pas la séparation. Ok, il faut effectivement après agir sur les autres types de vente liée. Mais pour Microsoft, l'enjeu fondamental, c'est la vente liée directement au niveau du système d'exploitation. Et c'est pareil quand on regarde dans les entreprises, dans les autres pays. Récemment, on assiste quand même à des choses hallucinantes avec Microsoft. Récemment, Mandriva a gagné un appel d'offres au Nigeria, je crois. Je crois que c'est le Nigeria. En gros, pour équiper un certain nombre d'écoles, si je me souviens bien, de postes avec Mandriva. Bon, peu importe. En tout cas, ils avaient gagné un appel d'offres. Et puis tout d'un coup, une semaine plus tard, l'appel d'offres a été cassé. Mandriva a été payé, mais par contre, le gouvernement nigérien a décidé de supprimer toutes les parties Mandriva et de mettre à la place du Windows. Donc on assiste à des choses qui sont pour moi, la vente liée pour moi, c'est du racket. Ce qui se passe là, c'est des pratiques mafieuses. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment agir contre Microsoft, c'est pas à la marge, c'est à la base. Et la base sur le grand public, c'est un terme, mettre un terme aux pratiques de vente liée. Et c'est pour ça que je trouve effectivement dommage que le gouvernement ne fasse rien. Maintenant, je ne suis pas tellement surpris. Je veux dire, effectivement, quand on a un ancien président qui reçoit Bill Gates en chef d'État il y a quelques années, c'est-à-dire trois semaines après la signature de l'accord entre l'UNESCO et Microsoft. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui en gros allait permettre à Microsoft de s'implanter dans les pays du Sud. On reçoit Bill Gates en chef d'État. Quand Steve Ballmer vient à Paris, il rencontre un certain nombre de députés, il va voir Fillon, sur lequel il va mettre en place, en avant un certain nombre de choses. Et dans le même temps, finalement, on ne veut pas tenir compte de la partie économique du logiciel libre qui est en train de monter. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est guère surprenant. Et si je reviens sur l'initiative candidat.fr que l'April avait lancée pendant la présidentielle 2007, sur l'ensemble des questionnaires qu'on avait envoyés, l'ensemble des réponses qu'on a reçues des candidats, donc 8 des 14 candidats avaient répondu, dont les 5-6 premiers, on constate effectivement que la position du président actuel, Nicolas Sarkozy, est une position dans laquelle, à la fois, il y a beaucoup de positions qui ressemblent à des positions de lobby, c'est-à-dire de lobby de Microsoft, très clairement, et puis sur d'autres sujets, de positions de quelqu'un qui n'a pas compris la différence entre l'économie du matériel et l'économie de l'immatériel. Tu parlais tout à l'heure de la mission Oliven, de la musique, des DRM, etc. On constate à la fois qu'il y a une soumission au lobby et il y a une incompréhension sur un certain nombre d'enjeux aujourd'hui, alors qu'on est aujourd'hui dans une société d'information. Donc j'espère que les choses vont évoluer. J'espère qu'au niveau des parlementaires, des choses vont être faites. J'espère que peut-être qu'au niveau du gouvernement, à un moment, les gens qui ont bien conscience de ces problèmes vont pouvoir agir. Mais aujourd'hui, très clairement, il y a une inaction politique qui est regrettable et j'espère qu'elle sera sanctionnée dans les années à venir.
J'aimerais rebondir sur un aspect, un autre aspect nocif de la vente liée, qu'on n'a pas évoqué en entier, c'est peut-être la question de concurrence, tout simplement. C'est que, interdire la vente liée, ça remet la concurrence sur le système d'exploitation. Ça fait que forcément, même pour ceux qui utilisent Windows et qui veulent continuer à utiliser Windows, les prix vont baisser beaucoup. Et ça, c'est évidemment bénéfique pour tout le monde. Et sinon, un autre aspect qui, pour le coup, est finalement encore plus important, c'est tout simplement l'habitude que prennent les utilisateurs d'utiliser, comme disions, des logiciels qui sont installés dessus, et en particulier les formats de données qu'ils utilisent. Donc quand on utilise la suite Microsoft Office, en fait, on utilise aussi, on stocke ses propres données, on stocke son propre travail sous un format qui est le format écrit par Microsoft. Un format qui, d'ailleurs, est pour l'essentiel non connu, non public. Et donc, ça signifie que, finalement, nos données sont prisonnières de ce format. C'est comme si nous écrivions dans une autre langue. Nous laissions la machine écrire dans une autre langue et que le disque dur contient cette autre langue. Et la seule façon de le lire, c'est d'utiliser l'outil de Microsoft. Alors ça, c'est un peu exagéré ce que je dis là. C'est-à-dire que d'autres logiciels, maintenant, arrivent à force d'essayer à lire ça, et en particulier la suite bureautique libre openoffice.org. Donc cette suite bureautique parvient à lire ces formats-là et évidemment par contre stocke les données sous un format libre, un format ouvert. Donc un format ouvert, c'est vraiment quelque chose d'important pour l'utilisateur, et l'administration l'a compris aussi, puisqu'il y a le référentiel général d'interopérabilité qui tarde malheureusement à se mettre en place, qui consiste à faire le choix raisonné de stocker toutes les données des citoyens, des administrations, sous forme de format ouvert. Ça, c'est important vraiment pour la pérennité des informations, parce que tout simplement, un texte que vous avez écrit avec Microsoft Word il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, en général, vous ne pouvez pas le lire aujourd'hui avec votre logiciel actuel de Microsoft. Parce que le format a évolué.
Pousser les gens à acheter la nouvelle version.
La nouvelle version, oui.
Oui, c'est d'autant plus important. Il faut savoir, par exemple, surtout dans les entreprises, que le gouvernement, enfin l'État, oblige à conserver pendant une certaine durée des informations. Je pense par exemple au secteur de l'assurance. Et par exemple, s'il y a des durées qui vont sur plusieurs dizaines, voire jusqu'à 99 années, ces données. Et par contre, donc l'État s'engage à fournir le matériel qui permettra de les relire. D'où l'importance de formats ouverts, pour ne pas avoir un problème justement qui consistera à dire dans 50 ans on ne sait pas relire ces données.
Je pense qu'on pourrait faire une émission sur les formats ouverts et sur ce qui s'est déroulé là il y a quelques mois sur la bataille sur la normalisation des formats. Il y a eu des trucs assez des coups assez tordus, enfin il y a, je pense, pas mal à dire. Je vous propose qu'on écoute un autre morceau et après ça on parlera de la commission Oliven. For the very first time, your passion and your dreams, what you believe, and your logic, what you've seen, and your world all crumbles
it's beautiful, comical, terrible, part of all of what makes
wherever we go.
Symbiose, donc pour aborder les conclusions du fameux rapport Oliven, qui pour rappel a été un rapport demandé par le gouvernement donc au président de la FNAC, il faut le dire, donc Monsieur Oliven, pour essayer de trouver une solution pour sauver l'industrie audiovisuelle et donc notamment lutter contre le piratage. Donc, est-ce que Frédéric, tu peux introduire un petit peu les conclusions de ce rapport et en quoi il consiste, et notamment parce que moi il y a un point qui m'a interpellé, c'est que donc l'Élysée s'est félicité de cet accord, donc qui implique trois parties, donc à savoir les pouvoirs publics, les ayants droit et les prestataires techniques. Mais dans cet accord, il n'y a nulle part mention faite d'une quelconque association de consommateurs. Visiblement l'UFC Que Choisir, suite à ce rapport, en fait, a émis de nombreuses critiques et était totalement contre les conclusions.
Il faut rappeler comment a fonctionné la mission Oliven. La mission Oliven a fonctionné par des auditions d'un certain nombre de structures. Donc, du côté de l'association de consommateurs, l'UFC Que Choisir a été auditionné, je ne sais pas si d'autres l'ont été. Du côté des internautes, la Ligue au débit a été auditionnée, les gens de Stop DRM ont été auditionnés. Du côté du logiciel libre, l'April a été auditionné, je crois que l'AFUL également. Et puis à partir de ces auditions et puis des travaux des membres de la mission, il devait arriver effectivement à une conclusion. Bon, il faut être assez clair, on n'a jamais eu aucun doute sur les conclusions du rapport de la mission Oliven. Parce que si on se souvient bien, peu avant l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy, alors je suis obligé de revenir encore sur lui, mais il a tenu des propos clairs, et au moins ce qu'il avait annoncé sur certaines choses avant son élection, il les tient après, avait clairement dit que de toute façon, il était pour la protection juridique des mesures techniques, des fameux DRM, ces dispositifs de contrôle d'usage, hein, par exemple, qui vous empêchent par exemple de transférer librement sur le balayeur de notre choix de la musique que vous téléchargez, que vous avez acheté par exemple sur une plateforme. Et il avait dit également qu'il remettrait en place le mécanisme de riposte gradué, c'est-à-dire ce mécanisme de sanction dite progressive mis en place envers les internautes en se débarrassant évidemment de la question du juge qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc avant l'élection, il avait été assez clair qu'il mettrait en pratique ça. Donc les objectifs, je crois, de la mission Oliven étaient assez clairs. Nous, on y a participé. Bon, d'abord parce qu'on estime toujours qu'il faut continuer à sensibiliser les gens et on ne sait jamais, on peut toujours arriver à convaincre des gens qui sont a priori de bonne foi que ce qu'ils vont mettre en place est complètement absurde. Et puis aussi pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire qu'il y a au moins une chose qui est très claire à la sortie de cette mission Oliven, de cet accord, qui, comme tu le dis, concerne exclusivement des professionnels. Les consommateurs n'ont pas signé l'accord. Les associations d'internautes n'ont pas signé l'accord. Les associations de logiciels libres n'ont pas signé l'accord, ou en tout cas, toutes ont en plus dit qu'elles étaient contre cet accord. Qui, en gros, il faut le rappeler, met en place quoi ? Met en place ce qu'ils appellent la méthode de riposte graduée. Donc, une autorité dite indépendante, qui se substituerait quelque part au juge, qui enverrait des messages gradués auprès des internautes jusqu'à la résiliation de l'abonnement. Ce que veut depuis des années, effectivement, les associations comme le SNEP, la SACEM, etc., c'est-à-dire toute la structure de l'industrie culturelle, qui sont, ne représentent pas les auteurs au final. Parce que je pense qu'on y reviendra là-dessus, c'est de savoir est-ce que ces mécanismes ont quelque chose de positif pour les auteurs ou pas. Ces gens-là le veulent depuis des années, ils veulent se passer du juge. Aussi le mécanisme de filtrage, donc essayer de mettre en place le filtrage d'un certain nombre de protocoles. Moi, je rappellerai toujours que Pascal Nègre a comme ambition ultime dans la vie, en tout cas sur la question du numérique, de mettre fin au peer-to-peer, d'interdire le peer-to-peer. Donc c'est montrer que quelque part, il a du mal à comprendre ce que c'est que le peer-to-peer, ce que c'est qu'Internet. Parce que interdire le peer-to-peer en tant que tel, c'est interdire une technologie. Alors qu'est-ce qu'il faut combattre, c'est les usages. Il y a la mise en place d'une liste noire d'abonnés sous le contrôle de la CNIL. Enfin, annoncé sous le contrôle de la CNIL. Alors, je rappellerai que la CNIL, depuis des années, annonce qu'elles ont un manque évident d'effectifs. Alex Turc répète depuis des années qu'il n'a pas assez d'effectifs pour tout son travail. Donc là, on va lui rajouter quelque chose. Je rappellerai que la CNIL, en plus, a été très prudente, voire même très critique contre la possibilité de filtrer du contenu, de garder des connexions d'adresse IP pour identifier des internautes. Plus globalement, il y a la responsabilisation de l'abonné en tant que tel, c'est-à-dire que l'abonné sera responsable de tout ce qui se passe sur sa machine, indépendamment de qui a fait quoi, si c'est un enfant qui a fait ça, si c'est quelqu'un qui s'est connecté sur la borne Wi-Fi. Donc un certain nombre de mécanismes très répressifs pour la partie, je dirais, lutter contre la contrefaçon. Mais en gros, cette partie-là n'empêchera jamais les contrefacteurs en masse d'agir. Ça va juste mettre en place un mécanisme qui va être intrusif par rapport à la vie privée des gens, de contrôle absolu. Le juge n'aura plus finalement son mot à dire. Donc c'est vrai que l'UFC a eu des mots très durs, nous on les partage de ce côté-là. Je rappellerai que la mission Oliven avait quand même deux parties. La deuxième, si je me souviens bien, je reprends le titre, c'est les moyens de développer une offre culturelle numérisée attractive. Et là, le seul côté positif qu'ils ont mis en avant dans la mission Oliven, c'est l'abandon progressif des DRM sur la musique française. C'est-à-dire, en gros, on abandonne les DRM. Or, c'est faux. Si on lit bien les termes de l'accord et si on lit bien la mission Oliven, il y a un abandon des DRM programmé d'ici un an. On se demande pourquoi d'ici un an, pourquoi pas maintenant, exclusivement sur la musique française. Alors que les DRM ne concernent pas simplement la musique française, ça concerne aussi la vidéo, etc. Et puis en plus, il est marqué quand même dans le rapport que c'est en attendant que les DRM deviennent interopérables. C'est la fameuse marotte qu'il y a eu sur le projet de loi des droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information, donc des ADVSI qui a occupé pas mal de débats pendant 3-4 ans, sur les DRM interopérables. Moi, je rappellerai qu'un DRM ne peut pas être interopérable. C'est la définition même d'un DRM, parce que justement, un DRM, son but, et là, on va revenir sur la vente liée, c'est de faire de la vente liée entre, par exemple, un fournisseur d'une plateforme de contenu numérique et un baladeur, typiquement iPhone, iTunes. Et que le but des DRM, c'est évidemment de sanctuariser cette vente liée et d'empêcher quelqu'un, par exemple, d'acheter de la musique sur une plateforme de musique, de le mettre sur un baladeur autre que celui que la plateforme de musique a choisi. Donc les DRM interopérables, c'est de la foutaise, c'est rien. Donc concrètement, la seule mesure qui est mise en avant par la mission Oliven, entre guillemets positive, est une mesurette. Et puis au final, pour arriver à quoi ? On constate en fait que... est-ce que véritablement la contrefaçon numérique a un effet sur la chute des ventes de disques ? Oui, peut-être. Mais en même temps, on constate que d'autres objets, en tout cas, il y a un modèle de transfert de valeur. Par exemple, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui téléchargent, qui achètent des sonneries de musique. On constate qu'il y a du développement de la musique en ligne, du téléchargement de la musique en ligne gratuite, là où il y a pas payante, là où il n'y a pas de DRM. Donc effectivement, il y a un rééquilibrage simplement des modèles économiques et des dépenses des ménages. Mais en gros, on n'a jamais réussi à démontrer, personne n'a jamais réussi à démontrer, qu'il y avait véritablement un impact négatif du numérique, d'Internet, sur globalement le modèle économique des industries culturelles et notamment des auteurs. Parce que quand on constate aujourd'hui les auteurs qui disent « Moi, Internet, ça me fout les jetons, ça me fait peur, etc. », ils vendent autant de musique qu'avant. Autant. Finalement, les seuls, on voit aussi aujourd'hui des gens qui quittent les maisons de disques pour aller carrément vendre sur Internet comme Radiohead. Radiohead, ils n'ont pas l'air d'être à plaindre. Donc aujourd'hui, le problème principal, c'est qu'on ne veut toujours pas revenir sur la question fondamentale. C'est est-ce qu'il y a un problème ?
Oui, tout à fait. Dans la mesure où on a plusieurs chiffres. Alors, il est vrai qu'en France, il est très difficile d'obtenir des chiffres officiels. Mais notamment, on peut citer un pays voisin qui est le Danemark, chez qui ils ont mené une vraie étude. Et en fait, ils ont juste montré qu'on était revenu au niveau volume de vente, au niveau que l'on avait dans les années 80. Et qu'en fait, il y avait juste eu des années exceptionnelles de 90 avec un pic à 2000. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de décrypter le langage des distributeurs. C'est qu'ils comparent toujours par rapport à 2000. Forcément, c'est le haut de la vague. Donc, quand on compare par rapport au maximum, on peut être qu'en dessous par définition. Donc, ça d'une part, qu'effectivement, on a remarqué une certaine corrélation avec le développement de l'Internet depuis 2000 et la chute des ventes de disques, mais il n'est pas encore démontré la causalité. Mmh. Et ça, c'est important de faire la différence.
Également qu'il y a, à côté de la musique, d'autres marchés qui sont développés, comme celui du DVD. Enfin, la cassette VHS n'a jamais fait des volumes de vente de cette taille-là. Le développement du jeu vidéo également.
Et même des paris. En fait, là, j'ai les chiffres de l'INSEE qui a sorti son rapport et en fait, qui explique que la plupart des ménages maintenant consacrent une part importante au paris en ligne, donc ce qui concerne donc le PMU, le loto et même les casinos en ligne, et que dans le budget des ménages, en fait, la part consacrée aux loisirs a progressé sans arrêt depuis les années 60, et qu'au sein de cette part consacrée aux loisirs, tout ce qui est jeux en ligne et paris, c'est aussi considérablement développé.
Donc, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, si on constate, qu'est-ce que poussent les industries culturelles depuis des années ? Ils poussent les DRM. Et concrètement, les DRM pour le grand public, je ne vais pas revenir à l'impact que ça a sur les développeurs de logiciels libres, on en a déjà parlé dans une autre émission, mais pour le grand public, concrètement, le DRM, c'est quoi ? C'est quelque chose qui empêche un usage paisible de l'œuvre, un usage légitime. C'est-à-dire, vous téléchargez aujourd'hui de la musique, vous n'êtes pas sûr que vous allez pouvoir l'utiliser sur votre baladeur que vous avez acheté. Vous achetez un CD aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que si vous avez envie de l'écouter dans votre voiture quand vous allez vous balader en vacances, vous pouvez le lire. Vous achetez un CD, vous n'êtes pas sûr que sur votre ordinateur portable, moi aujourd'hui par exemple j'ai un ordinateur portable, je n'achète plus de CD, parce que tout simplement je ne suis pas sûr que quand je vais pouvoir mettre le CD dans mon lecteur pour écouter la musique, par exemple dans le train ou même chez moi, je n'ai pas de chaîne IFI chez moi, je vais pouvoir le lire parce qu'il n'y a pas un DRM dessus. Il faut que je regarde derrière le CD pour voir s'il n'y a pas marqué un petit machin, etc. Donc concrètement aujourd'hui, à partir du moment où vous mettez des freins au consommateur, et le DRM c'est un frein à la consommation, ben, le consommateur, il ne va pas acheter des choses avec le DRM. Donc, il va sur un autre modèle. Il va effectivement peut-être télécharger de la musique là où il peut, là où il sait qu'il n'y a pas de DRM. Peut-être acheter de la musique ailleurs, sur des artistes qui annoncent qu'ils n'ont pas de DRM. Peut-être effectivement mettre l'argent ailleurs, dans des paris ou autre chose. Il ne faut pas oublier que globalement, aujourd'hui, on a un problème, et le gouvernement le sait très bien, de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Français, il baisse. Acheter aujourd'hui, par exemple, un CD à, je ne sais pas, moins 20 euros, sur lequel vous avez en gros un ou deux titres qui est intéressant. Parce que c'est aussi c'est le problème, c'est que vous avez des artistes, ils produisent un ou deux titres intéressants sur leur album. Est-ce que vous avez envie de mettre 20 euros dessus ? Non, vous avez peut-être plutôt envie de l'acheter à l'unité. C'est-à-dire juste acheter le morceau qui vous intéresse sur une plateforme de téléchargement sans DRM. Il y a des gens qui ont essayé, ils ont eu beaucoup de succès. On se rappelle que All of MP3, qui était un site russe, qui offrait des morceaux de musique au format MP3 sans DRM, marchait très bien. Tout simplement parce qu'effectivement, à partir du moment où vous offrez de la musique de qualité sans contrainte technique, les gens, ils achètent. Et je vais quand même revenir, parce que je parlais tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, et là, j'ai retrouvé une citation de son discours de conclusion de la mission pour montrer à quel niveau les politiques actuelles et ceux qui ont signé cet accord sont par rapport à Internet. En gros, il dit que Internet ne doit pas être un Far West high-tech, une zone de non-droit où des hors-la-loi peuvent piller sans réserve les créations, voire pire, en faire commerce sur le dos des artistes. On dit parfois que quand personne ne respecte la loi, c'est qu'il faut changer la loi, sauf si tout le monde tue son prochain, on ne va pas pour autant légaliser l'assassinat. Donc on voit les comparaisons qu'il fait. Il parle de Far West, il parle de pillage, il parle d'assassinat, alors qu'on est dans un modèle du numérique. Nicolas Sarkozy et les gens qui le conseillent, les gens qui écrivent ses discours, sont toujours dans le siècle précédent, toujours dans une économie du matériel, où ce que je donne, je le perds. Exactement comme si je donne un stylo, si je prête le stylo, je n'en ai plus l'usage. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait du numérique, quand il donne ou quand il prête, il y a toujours l'usage qu'il reste. Ce n'est pas du tout les mêmes modèles économiques. Donc, il faut en tenir compte. Et aujourd'hui, très clairement, les gens comme Nicolas Sarkozy, les gens du SNEP, donc de l'édition phonographique, les gens de la SACEM, ils ne se battent pas pour les artistes. Il faut arrêter. Ils se battent juste pour conserver pendant quelques années leurs modèles économiques qu'ils savent perdus. Mais au final, les artistes, ils n'en ont rien à foutre. Quant au FAI, Prenons les FAI. Moi, je vais en prendre deux FAI, on les a cités tout à l'heure. Free et 9CGTEL. Free était candidat à la licence, la quatrième licence 3G. Vous savez, la téléphonie 3G, il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont été candidats? Christine Albanel a reçu le directeur de Free et lui a dit, en gros, et d'ailleurs, ils ont même fait un communiqué de presse, elle leur a dit, si vous voulez votre licence 3G, ben, il va falloir que vous intensifiez la lutte, entre guillemets, contre le piratage. C'est-à-dire, en gros, si vous ne signez pas les accords de la mission Leven qui vont arriver bientôt, la licence 3G, vous ne l'aurez pas. Donc Free est signataire de l'accord de la mission Leven. 9CGTEL aussi. Qu'est-ce qui se passe? Deux jours après l'accord de la signature, tout d'un coup, 9CGTEL annonce qu'ils vont peut-être se mettre sur les rangs de la licence 3G, la quatrième licence 3G. Donc en gros, les FAI qui ont signé l'accord, ils ont signé l'accord pourquoi? Pas parce qu'ils y croient, mais simplement pour certains, parce qu'ils ont un intérêt économique indirect, et notamment Free et 9CGTEL, c'est celui de pouvoir avoir la licence 3G. Donc finalement, les signataires de l'accord, ben vous avez qui? Vous avez des industries culturelles, mais je ne parle pas des auteurs et des artistes, des industries culturelles qui, dans quelques années, leur modèle aura définitivement disparu et qui essaient de le conserver pendant quelques années. Vous avez des fournisseurs d'accès qui n'ont vraiment rien à foutre, qui le savent très bien que c'est complètement absurde ce qui est mis en place et qu'en plus faire la guerre aux consommateurs, ça ne rime à rien, mais qui ont d'autres ambitions. Et puis finalement, les autres, c'est-à-dire les artistes, les consommateurs, ils sont mis sur le côté de la route, exactement comme sur DADVSI. Mais il va se passer exactement la même chose que sur DADVSI, parce que ce qui a été mis en place suppose une modification de la loi. Donc suppose un passage au Parlement. Donc suppose un DADVSI 2. Et peut-être qu'on peut espérer que cette année, ce coup-ci, notamment les députés UMP iront jusqu'au bout de leur logique pour certains nombres qui avaient, pendant DADVSI, étaient contre le gouvernement en disant « Attendez, là, vous êtes en train de mettre en place quelque chose de répressif, quelque chose d'inutile, qui va contre le sens de l'histoire. » Et peut-être que là, finalement, au niveau législatif, le gouvernement va se retrouver en minorité. Moi, c'est mon espoir, c'est qu'au niveau législatif, les députés de tous bords, de l'opposition, c'est clair, ils sont invisibles depuis des années. Mais même du côté de la majorité, ils vont se dire « Non, vous n'allez pas nous refaire le coup une fois de plus. » Non, ce qu'il faut dire aux industries culturelles, c'est « Adaptez-vous maintenant, changez vos modèles. » Clairement, peut-être que la vente de CD, c'est plus le modèle d'avenir. Mmh. Ou alors c'est la vente de CD avec un formulaire, avec un bouquin qui est accompagné, qui marche très bien, par exemple dans la musique classique, ou dans d'autres modèles.
Ok, on a quasiment fini. Donc Cyprien, tu...
Il faut juste mentionner, souvent on a entendu l'argument que les utilisateurs peuvent être de bonne foi, peuvent télécharger illégalement de bonne foi. Il y a une des choses qui a été avancée par des associations de défense des logiciels libres et je crois qui ont été intégrées dans le rapport Oliven, c'est la question des métadonnées, c'est-à-dire les données qui accompagnent l'œuvre. Autrement dit, la volonté des créateurs de l'œuvre qui seraient des données qui accompagneraient l'œuvre. Et par conséquent, si on télécharge un fichier, il peut s'afficher obligatoirement le fait que l'auteur a voulu que ce soit librement distribuable ou n'a pas voulu que ce soit librement distribuable, ce qu'on appelle les métadonnées. Mmh. Voilà, donc c'est une des propositions qui
Et du coup, ce serait intéressant pour la musique libre et qui utilise des licences de libre diffusion, des licences libres.
Mais également les sections propriétaires.
Oui, voilà.
C'est ce qu'on a appelé les RNS, en opposition au DRM, c'est le Right Notification System, parce qu'il faut juste rappeler que dans les DRM, à l'origine, il y avait deux parties. Il y avait l'information sur les droits et le contrôle. Eh ben, ce qui est positif, c'est clairement l'information sur les droits, donc via des métadonnées, via d'autres systèmes. Par contre, le contrôle implique évidemment une violation de la vie privée et de tas d'autres soucis qui ont été démontrés. Donc, par contre, l'information sur les droits est quelque chose effectivement de fondamental et qui profitera à tout le monde.
Ok. On va s'arrêter là, puisque c'est l'heure. Donc, bah, merci à vous deux d'être venus ici. Merci à Whale pour la technique. Et on se retrouve dans un mois. Let me be.